le magazine citoyen avec la province Sud, une province citoyenne.
La province Sud, agir pour l'avenir.
Bonjour ou rebonjour à tous. La rentrée scolaire approche évidemment et ce magazine citoyen est consacré à cette rentrée. Nous allons voir cette rentrée du côté des chefs d'établissement qui sont évidemment très sollicités et qui sont déjà à leur poste de travail depuis plusieurs jours. Nous sommes en compagnie d'Anne-Sophie Michalak qui est directrice de l'école Robert Burke, de Thomas Long qui est le directeur du collège de la Foi et de Michel Lehouillet qui est le proviseur du lycée Jules Garnier. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Alors, bonjour à vous.
Et merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir pris sur votre temps pour participer à cette émission avant de voir un petit peu quelles sont les priorités que vous fixez pour cette rentrée, les questions que vous avez à régler encore dans les jours qui viennent. Peut-être qu'on peut parler de vos établissements respectifs pour savoir un petit peu combien d'élèves ils accueillent, combien de classes sont présentes. Anne-Sophie Michalak, qu'on commence par les plus petits, c'est-à-dire avec vous qui êtes directrice d'école.
Donc nous sur l'école de Rivière-Salée, donc on va accueillir à cette rentrée 2026 à peu près 230 élèves. Parce qu'on sait qu'on a toujours un peu d'inscriptions retardatives, mais on part sur ce schéma pour lundi matin.
C'est à peu près le nombre d'élèves équivalent par rapport aux années précédentes.
Alors on a augmenté cette année justement, lié certainement à la fermeture des deux écoles sur ces 5 dernières années sur Rivière-Salée, mais oui, dans l'ensemble on est passé de 200, on a une trentaine d'élèves en plus cette année.
Thomas Long, vous êtes le directeur du collège de la Foi.
Tout à fait, directeur du collège de la Foi et de l'ALP, antenne de lycée professionnel. On a une petite antenne, on accueille deux CAP. Donc nous accueillons 350 élèves à peu près au collège, c'est encore toujours un petit peu variable avec les dernières inscriptions que nous attendons, et puis une cinquantaine de lycéens en CAP, soudure et cuisine.
La même question que pour Anne-Sophie Michalak, ce sont des effectifs à peu près équivalents par rapport aux années précédentes ou...
Légèrement en hausse malgré tout, depuis deux ans, mais... Ce n'est pas non plus une révolution, on monte petit à petit.
Une certaine stabilité quand même.
Une stabilité vers les hauts.
Et puis on ne présente plus le lycée Jules Garnier, Michel Lehouillet, mais vous allez le présenter quand même.
Oui, donc le lycée Jules Garnier, avec des effectifs qui sont constants, on est à peu près à 1600 élèves attendus, donc avec une carte des formations qui n'a pas évolué, donc toujours une filière générale et technologique, 4 bacs pro, et puis 2 CAP, 7 BTS, et puis bien sûr les classes prépa. Voilà, donc pour l'instant on attend toujours quelques élèves qui n'ont pas fait leurs inscriptions, c'est le cas je pense aussi dans les collèges et dans les écoles, donc la vie scolaire est dessus, mais la rentrée se présente bien sur Garnier. Voilà, on attend aussi 250 internes, il faut le dire. Voilà, avec une particularité encore cette année depuis les émeutes, donc on a une demi-pension qui est devenue une cuisine centrale en fait pour Caméré et Petro Atiti, donc on gère, on produit 1900 repas le midi, voilà. Donc ça devient très très lourd.
Voilà, c'est une grosse organisation. Justement, c'est la première question que j'allais vous poser. Quelle est aujourd'hui votre préoccupation principale? On est à 6 jours maintenant de l'ouverture des cours. Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Est-ce que vous assurez que l'établissement est aux normes, que tout le monde a son poste, que les plannings et les emplois du temps, en ce qui concerne les collèges et les lycées, sont bien faits? Quelle est votre préoccupation aujourd'hui, à quelques jours de la rentrée, Anne-Sophie Michalak?
Alors, le travail de pré-rentrée, c'est celui d'organisation. Donc là, pour les enseignants, c'est d'anticiper les besoins des classes, de manière à pouvoir accueillir en toute sérénité les familles lundi matin. C'est aussi montrer beaucoup de soutien, dans la mesure où il faut que nos enseignants soient... on va dire, disponible pour accueillir les élèves lundi matin. Donc c'est vrai que le rôle de directeur, c'est aussi de rassurer, parce qu'il n'y a pas que les enfants qui stressent, les enseignants aussi, c'est une nouvelle classe, c'est une nouvelle découverte, et il faut que la mayonnaise prenne rapidement. Donc notre rôle, c'est surtout de les soutenir, et puis surtout de faire aussi le pare-feu dès lundi matin, justement, aux inquiétudes, aux appréhensions des familles qui peuvent avoir des questions qui peuvent mettre en difficulté les enseignants. Donc là, il est important, justement, le travail de pré-rentrée, c'est de faire en sorte que tout soit prêt et pour une rentrée en pleine confiance.
Et de beaucoup de présence, j'imagine.
Beaucoup de présence. Ça, c'est le rôle essentiel de direction. C'est de montrer notre présence dès lundi matin.
Vous avez les mêmes préoccupations, Thomas Long?
Bien sûr, en fin de compte, l'objectif, c'est d'accueillir dans les meilleures conditions tous ceux qui vont faire vivre et cette année scolaire. Donc l'arrivée des enseignants vendredi, hein, c'est la pré-rentrée pour les enseignants vendredi, et pour les élèves à partir de lundi, effectivement, pour une entrée échelonnée d'ici mercredi. Donc les préoccupations sont effectivement du côté du matériel, de voir que tout est en ordre. Quand nous sommes partis en vacances, nous ne savions pas si nous allions avoir des cyclones notamment, donc nous mettions en sécurité. Donc là, c'est de remettre en route tout le système. Bien sûr, quand on reprend, et ça c'est chaque année, on a toujours des petits problèmes techniques. En ce moment, sur la foi, on a des problèmes de téléphone. Ça va marcher d'ici jeudi ou vendredi, si tout va bien. Voilà, remettre en route les logiciels.
Donc, il faut être multiservice quand même.
Voilà, on joue, on touche à tout. On regarde ce qui va, ce qui ne va pas, pour que lundi, vendredi, tous les enseignants soient dans les meilleures conditions avec leur emploi du temps, qui fonctionne, les salles, les clés, et qu'ils soient déjà prêts, en leur enlevant déjà toute la partie technique, et qu'ils soient prêts à accueillir les élèves.
Alors, est-ce que les enseignants, que ce soit dans le secondaire ou dans le primaire, puis on parlera après de lycée Jules Garnier, vous appellent avant la pré-rentrée qui aura lieu vendredi? Est-ce que certains se manifestent déjà parce qu'ils ont des questions, peut-être déjà des inquiétudes ou des interrogations, Anne-Sophie Michalak?
Ah oui, certains sont déjà dans les starting blocks depuis très longtemps, donc il faut même les freiner, parce que voilà, les demandes sont multiples, en effet. On est des couteaux suisses, hein, comme on dit. Mais c'est plutôt positif, parce que voilà, on tend là vraiment vers une belle rentrée. L'année dernière, hein, c'était une rentrée quand même un peu compliquée, où il y avait quand même beaucoup d'appréhension. Et là, cette année, il y a vraiment une belle énergie. Donc ça annonce vraiment des projets enthousiastes.
Michel Louillet, quelles sont vos préoccupations quotidiennes à quelques jours de la rentrée?
Bien sûr, les emplois du temps, on est en train de finaliser.
C'est un vrai casse-tête, les emplois du temps, surtout dans un lycée comme le vôtre. Plus le lycée ou l'établissement scolaire est important, plus c'est complexe.
Oui. Alors, les logiciels ont bien évolué, mais s'occupe du côté technique. Mais derrière, il faut des super adjoints. Et bon, j'ai la chance à Garnier d'avoir des adjoints qui maîtrisent parfaitement le logiciel, puis qui ont vraiment une réflexion en amont, pour que, au niveau pédagogique, ça fonctionne bien. Que tout le monde soit satisfait. Voilà. Moi, la préoccupation principale là, des équipes, ça a été vraiment un travail de, surtout les équipes de vie scolaire, un travail de repérage des difficultés chez les parents et les enfants. Depuis l'année dernière, on le sait, la situation est vraiment compliquée, et on le ressent encore plus, nous, cette année, puisqu'en fait, l'année dernière, il y a beaucoup de parents qui n'osaient pas dire qu'ils avaient des problèmes financiers, sociaux, familiaux, il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes, et donc il y a eu un gros travail tout au long de l'année de communication avec eux, pour essayer de les rassurer et de les faire venir vers nos services, et c'est en train de payer. Donc, ce qui veut dire que aussi bien le service santé que le service social au sein du lycée là ont eu déjà beaucoup de travail depuis hier. On a reçu énormément de familles, donc on a des fonds sociaux dans les lycées qui sont importants, sur subventions de l'État, et il faut absolument que les gens aient le courage de venir nous voir et de nous solliciter, puisqu'en plus la démarche est complètement anonyme. Il y a 4 personnes dans l'établissement qui savent qui on a aidé, et on s'est rendu compte que l'année dernière qu'on avait perdu beaucoup d'élèves en fait, qui ne venaient plus parce qu'il n'y avait plus de transport, il fallait prendre des transports privés, ils n'avaient pas l'argent pour payer, ils n'avaient pas l'argent pour les fournitures, parfois pour les nourrir. Voilà. Donc cette année, on a vraiment mis l'accent sur la pré-rentrée, à la détection. Voilà.
Vous avez des élèves. Vous rencontrez aussi ce même problème en brousse, Thomas Long, par rapport à l'absentéisme et décrochage, parce qu'on peut parler de décrochage à la suite des émeutes en 2024, de décrochage scolaire, dans une tranche d'âge, on sait, qui est en plus très très charnière, les 11-14 ans, quoi.
Alors absolument, le décrochage est un vrai sujet, on en parle très régulièrement avec les services du rectorat. L'absentéisme en est un autre en Nouvelle-Calédonie, c'est l'un des sujets principaux qui emmène à l'échec scolaire, l'absentéisme. Donc oui, on travaille beaucoup dessus, on accueille beaucoup les familles par rapport à cette problématique des élèves qui ne viennent pas dans l'établissement. Dès le collège, on voit très rapidement, alors je ne sais pas en primaire, mais en collège, dès le niveau 5e, 4e, on voit de gros décrochages pour un certain nombre d'élèves. Donc on essaye d'accompagner, on essaye de trouver des formules un petit peu hybrides ou des solutions adaptées, loin du système classique scolaire, pour qu'on les emmène le plus loin possible, malgré cette envie d'ailleurs et de faire autre chose. Donc l'école sert à ça et on a vraiment cette problématique aussi en Beauce.
Et ça, c'est un vrai travail pédagogique partagé par l'ensemble des équipes.
Oui, c'est en tout cas, si on ne le faisait pas, je pense qu'on ne jouerait pas notre rôle. Mmh. Donc on est vraiment sur un rôle d'accompagnement, d'aide aux familles, d'aide aux élèves et d'essayer de trouver des formules adaptées, individualisées. Oui, on essaye de tout ça et on espère que, en tout cas, au cas par cas, parce que bien sûr, ce n'est pas pour l'ensemble des élèves, hein, ne faisons pas peur aux auditeurs, la plupart des élèves fonctionnent
viennent bien à l'école, oui, oui.
Et ont une scolarité tout à fait normale, mais oui, on a un lot de quelques élèves qui très tôt montrent de grandes difficultés pour lesquelles on essaye de trouver des solutions.
Est-ce que c'est des difficultés qu'on rencontre aussi dans le premier degré ou pas encore, Anne-Sophie Michalak ?
Alors, parce qu'en effet, hein, on est une école de quartier, hein, donc je pense que sur le secondaire, c'est majoré. Mais c'est vrai que nous, on le ressent. Alors, c'est pas lié aux événements de 2024. Hein, on le ressent, je dirais même, depuis le Covid, où on a le sentiment que les familles, en fait, ont tendance à favoriser le bien-être de leurs enfants au moindre petit mot, quoi. Et du coup, on a cette augmentation, hein, d'absentéisme. Maintenant, c'est notre vigilance quotidienne aujourd'hui. Et ça fait part, justement, hein, des réunions des équipes éducatives pour arriver à comprendre la cause. Et puis surtout, expliquer aux familles, hein, informer les familles des conséquences graves, hein, qu'il peut avoir à ces petites, on va dire, absences en pointillés, quoi. Sur alors, la réussite scolaire.
Justement, ça nous amène à parler de ce sujet, de la place des familles dans l'enseignement, d'une certaine façon, dans l'accompagnement de leur enfant, dans le suivi de leur enfant, parce qu'on entend régulièrement les chefs d'établissement se plaindre, en quelque sorte, que les familles ne sont pas assez impliquées, c'est compliqué parfois de les rencontrer. Qu'est-ce que vous, chef d'établissement, attendez d'une famille qui met son enfant dans un établissement scolaire chez vous, Michel Lehouillet ?
Vous disiez, il faut que les familles accompagnent. Donc pour nous, il faut absolument que ce soit un partenaire. Hein. Et il y a tout un système, un certain nombre de personnes qui sont autour de l'enfant et les parents d'avoir une place privilégiée. Hein. Alors moi, sur Garnier, la difficulté qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se font par Internet, hein, notamment par Pronote.
Et il y a moins de contact direct.
J'ai en gros 30% des parents qui sont connectés. Donc 70% qui ne sont pas connectés, donc ça complique déjà les choses. Et il y a le fait de la carte scolaire, avec un recrutement, quelques élèves sur Magenta, mais sinon c'est Porte de Fer, Rivière Salée, Caméré, et après c'est la brousse, avec Thio, Canala, Bouraille, La Foy, donc des gens qu'on ne voit pas forcément très facilement, hein, qui ne descendent pas souvent sur Nouméa. Voilà. Mais il faut essayer au moins de lier le contact, hein, et de faire en sorte que ce contact soit quasi permanent, au moins avec le prof principal, mmh, hein, et puis le CPE du niveau, de manière à pouvoir alerter et travailler ensemble, en fait, dès qu'il y a un souci.
Voilà, parce que s'il n'y a pas de souci, généralement, les parents, j'allais dire, vous les voyez très peu.
Quand il n'y a pas de soucis, on les voit souvent, on rencontre parents-profs.
Oui, c'est ça.
Mais
quand il y a des soucis, vous ne voyez pas les parents en réunion parents-profs, souvent.
Voilà, oui. Et donc, dès le début de l'année, on essaye de tisser ces liens. Donc, dans tous les établissements, il y a des rencontres, des réunions avec les parents entrants, enfin, des élèves entrants en début d'année. Donc, sur le niveau seconde, moi, je sais que j'ai plus de la moitié des parents qui sont là, quand même. Donc, ça, c'est bien. Donc on essaye de mettre le paquet ce soir-là, donc là ça va être le 26 février. Mais bon, ça suffit pas, quoi. Après, il faut vraiment un travail de longue haleine, des PP, des CPE, parfois des conseillers d'orientation, pour essayer de faire en sorte que vraiment on travaille ensemble. C'est ça l'important. Le problème, c'est que les parents, souvent, ont peur d'être jugés quand il y a des soucis et il faut qu'ils comprennent que non, on n'est pas là pour juger
c'est
les gens,
des solutions,
ni juger le gamin. Voilà, il y a une problématique, il faut y faire face et on pourra y faire face et arriver à quelque chose que si on travaille ensemble.
Est-ce que le rôle des parents pour accompagner leur enfant est plus important plus ils sont jeunes? Là, on a parlé du lycée, mais est-ce que vous avez les mêmes attentes, vous, en collège, voire en école primaire, Thomas Long et Anne-Sophie Michalak? Thomas Long?
En tout cas, je pense que oui, à tout âge de la scolarité de l'enfant, le parent a une place primordiale dans le système. Il a une place, il a même deux places possibles. D'abord, il a une place pour son enfant, sur son suivi, effectivement, comme le disait Michel, on voit les parents pendant les réunions, mais souvent, les élèves en difficulté, les parents, comme tu l'as dit, se sentent jugés ou ont une mauvaise image de l'école. En fin de compte, notre travail, à nous, c'est de leur montrer qu'on est avec eux, on a le même objectif qu'eux. L'objectif, c'est la réussite de leur enfant. Donc du moment où on est d'accord sur le chemin qu'il y a à faire avec leur enfant, je pense qu'on peut arriver à trouver une solution. Mais c'est vrai que quand on convoque, le mot est souvent mal choisi, mais les parents ont souvent ce sentiment d'être convoqués par le directeur et donc se sentir jugés par ce directeur qui va... Au contraire, quand on les appelle, c'est à la fois pour essayer de leur trouver des solutions. Qu'on trouve ensemble une solution pour l'enfant. Avant d'en arriver, effectivement, après, à des solutions beaucoup plus jugeantes, qui sont après les conseils de discipline ou autres, si on devait en arriver là. Mais avant toute chose, c'est accompagner les familles. Donc, pour les élèves en difficulté, c'est ça. Et puis aussi, il y a un deuxième aspect important, ce sont les associations de parents d'élèves. Nous, pour la fois, on a une petite association avec très peu de parents, donc qui s'essouffle beaucoup. Et on a besoin aussi de ces associations qui peuvent dynamiser pour plein d'actions autres que ce qu'on peut faire, nous, au quotidien. Et donc, on a besoin d'eux là-dessus aussi.
Sophie Michalak.
Alors moi, je vais être encore plus exigeante. Je vais dire que l'accompagnement, il est essentiel et qu'il doit être quotidien. C'est vraiment, on essaye de communiquer. Après, les familles, bien souvent, c'est qu'ils n'ont pas les clés, hein, comment accompagner leurs enfants et ou n'ont pas les mots. Et ce que je dis souvent à la rentrée des petits CP, parce que c'est vrai que le primaire, hein, mais encore plus le CP, hein, c'est vraiment le temps des fondations et des semences, hein, où tous les savoirs, la curiosité, la confiance en soi va marquer justement, hein, le parcours scolaire pour le collège et le lycée. Et je leur explique toujours, c'est vrai que le soir, quand on récupère son enfant, c'est symbolique en fait, le temps d'accompagnement sur les devoirs, ou même le questionnement. Et souvent les parents ils disent, mais je lui demande qu'est-ce que tu as fait. Des fois je lui dis, changez le mot, demandez-lui qu'est-ce que tu as appris. Et vous allez voir que la réponse, elle est tout autre. Et justement, l'engagement dans les apprentissages va modifier vraiment le comportement, quoi. Donc, c'est vrai que souvent, on fait énormément en primaire de guidance parentale. Mmh. Les familles ont besoin. En tout cas, sur River Salé, c'est une grosse partie du travail.
Du travail. Alors, vous l'avez évoqué, évidemment, il y a une préoccupation aussi sur le climat de cette rentrée scolaire. On sait que 2025 a été un peu compliqué après l'année 2024. Aujourd'hui, on est un an et demi, un peu plus même, près de deux ans après les émeutes. Est-ce que vous êtes plutôt tranquille sur l'ambiance de cette rentrée scolaire, ou est-ce que vous avez toujours dans un coin de votre tête une préoccupation en vous disant « j'espère que ça va bien se passer ». Allez, Michel Louis.
C'est une période qui a marqué les esprits. Oui. Donc,
on sait qu'il y a eu des dispositifs aussi de sécurité qui ont été mis en place aux abords de certains établissements scolaires, hein,
oui,
ces derniers mois.
Et à l'intérieur, sur Garnier, on a été victime d'intrusions, hein, et même de menaces très sévères là, à un moment donné. Donc on a installé des caméras, on a mis des concertinas, etc. Mais il y a surtout effectivement un gros travail qui a été fait avec les forces de l'ordre et le Haut-Saria, bien sûr le vice-rectorat, pour mettre en place des protocoles, en fait, pour s'assurer que, à tout moment, être assuré que la sécurité n'est pas en danger aux abords, et encore moins à l'intérieur. Voilà. Donc sur Garnier, nous, on est serein, hein, on n'a pas d'alerte particulière, en tout cas, je pense au niveau du Haut-Saria et du vice-rectorat pour cette année. Et les gens qui fréquentent l'établissement depuis lundi, là, sont détendus, souriants.
Tout va bien, oui, voilà.
A priori, ça va.
Thomas Long. En brousse, les choses ne se vivent pas de la même façon.
Je ne sais pas si ça ne se vit pas de la même façon. Si, c'est plutôt détendu. C'est vrai, on a eu cette chance-là aussi, à la ville de la Foix, d'avoir... en tout cas, le temps des émeutes était plutôt... la ville de la Foix était plutôt privilégiée à ce moment-là. On n'était donc pas très affectés. L'établissement scolaire, lui, a été plutôt refuge au moment, en 2024. Cette rentrée, s'annonce très apaisée, en tout cas plutôt apaisé. On n'a pas ça en tête, même si, bien sûr, ce qui s'est passé a questionné l'école, hein, et le rôle des enfants. Nous, comment on peut les réaccueillir? Mine de rien, dès qu'ils sont revenus, on a retrouvé des élèves en face de nous et des familles qui avaient envie que les enfants retournent à l'école, pour la très, très grande majorité. Donc, on a très rapidement retrouvé l'école comme elle devait être. Et puis, on a une rentrée qui s'annonce plutôt calme, oui, par rapport à ça.
Anne-Sophie Michalak.
Oui, ben alors, on ne va pas se mentir, hein, sur Riversalé,
c'est compliqué.
La période 2024 a été très compliquée. Hein, le quartier a subi quand même de nombreux dégâts. Mais l'année dernière, c'est vrai qu'on a fait une rentrée où on avait beaucoup d'appréhension, et toutes les familles aussi, parce qu'il fallait se retrouver. Mais je pense que bon, l'école a permis aussi, et tous les projets que l'on a initiés hein, en 2025, justement, hein, pour... faire revenir les familles dans l'école, voilà, retravailler tout le lien social. Et puis aussi, surtout, je vais faire de la pub hein, sur RS Solidarité, hein, qui a fait vraiment un énorme travail, justement, autour de toutes ces familles, pour vraiment redonner vie à ce quartier. Et non, on est très positif. On a fait une fin d'année qui était dans le vert, et je pense qu'on va ouvrir l'école lundi matin. Avec plein d'enthousiasme.
Voilà, le message est bien passé. Alors, un mot quand même. Alors, ça concerne peut-être pas tous les établissements scolaires, mais évidemment, le cœur de métier, c'est la formation, entre guillemets, des élèves pour qu'ils apprennent le mieux un maximum de choses. Mais on sait que les établissements scolaires ont aussi toute une activité propre. Il y a des initiatives qui sont prises, il y a des déplacements, il y a du sport. On pense à Jules Garnier. Enfin, voilà, il faut aussi gérer tous ces à côté qui ne sont pas exactement le cœur de l'apprentissage, mais qui font partie de la vie normale d'un élève, Michel Louillet.
Oui, donc il y a effectivement les cours, puis toutes les activités voilà. Périéducatives, et encore plus quand il y a l'internat. Donc là, on a d'une part les équipes de vie scolaire qui sont énormément impliquées sur ces temps-là, et puis on a, en tout cas moi sur Garnier, j'ai beaucoup de projets qui émanent des enseignants, donc pour des activités effectivement sportives, club d'échecs.
Choisir, trancher. Accompagné.
Alors moi, par principe, j'ai toujours dit oui à tout, et après on cherche les moyens. Voilà, mais on ne va pas bloquer les gens, les freiner dans leur élan. Et on a un gros axe développement durable hein, avec 17 actions sur Garnier. Et puis on avait une petite ressourcerie qui a pris son envol avec les émeutes et qui aujourd'hui est devenue quasiment une usine. Et voilà, donc. Plein de choses qui se passent. Alors, on a bénéficié sur Garnier d'un contrat de développement qui s'est terminé l'année dernière. Donc, on a complètement restructuré, en fait, le lycée. Et on a pu créer une maison des lycéens, donc un foyer sur l'externat. Voilà, donc on a lancé quelques projets l'année dernière, et puis là, ça va démarrer à la rentrée à plein avec une cafétéria, et puis plein d'activités qui se font soit sous la houlette des élèves, des délégués des représentants des élèves au conseil de vie lycéenne, soit sous celle de prof ou de CPE.
Anne-Sophie Michalak, dans les écoles primaires aussi, il y a des tas de choses périscolaires à mettre en place.
Oui, tout à fait, ça fait des années. Hein. C'est au cœur aussi du thème sur le climat scolaire. Hein. Donc voilà, depuis nous sur l'école, depuis 8 ans, on travaille beaucoup tout ce qui est récréative, comme on appelle ça, hein, les récréations actives avec beaucoup de jeux. Et c'est vrai qu'on a vu réduire, mais de manière foudroyante, il n'y a pratiquement plus d'actes de violence dans l'école. Mmh. Et puis après, tous les projets collectifs, pour que chaque enfant s'y retrouve et que chaque enfant se sente en réussite. Ça aide aussi beaucoup à gagner la confiance en soi. Quoi. Mmh.
Thomas Long.
Oui, ben, au Collège de la Foi aussi, hein, ça correspond à l'identité de l'établissement de proposer bien d'autres choses que les cours classiques. Hein. Je rappelle que c'est entre 26 et 27 heures une semaine de cours d'élèves en collège. Alors, on a beaucoup plus d'heures dans l'emploi du temps, donc il faut les combler, il faut proposer des choses. À la fois, nous avons deux sections, une section rugby, une section foot. Nous avons une option art aussi, qu'on propose à tous les élèves. Donc, ce sont des choses complémentaires sur lesquelles on prend sur nos fonds, je dirais, libres pour pouvoir proposer autre chose que les cours classiques, mais qui créent à la fois l'identité d'établissement et qui permettent aux élèves de s'épanouir pleinement autrement que dans les cours classiques. Donc on a ça, on a le CVC, donc le Conseil de vie collégien, qui est de plus en plus actif. Nous avons des semaines à thème. Bref, on essaye de trouver de quoi, non pas seulement occuper, mais d'intéresser les enfants à leur vie et en temps pour qu'ils deviennent des vrais petits citoyens et qu'ils s'impliquent aussi dans l'établissement.
Une question un peu particulière. particulière pour vous, Thomas Long, puisqu'on sait que La Foy est une commune où un internat de l'enseignement catholique va fermer, hein, celui de Dominique Savio. Le repli pour les parents qui avaient des enfants dans ce internat, c'est éventuellement le collège public. Est-ce que vous avez reçu des inscriptions supplémentaires? Est-ce que vous voyez un mouvement se faire d'un internat vers l'autre?
Alors effectivement, c'est une question qui nous préoccupe, sur laquelle on suit beaucoup. L'idée n'est pas non plus de vider le Dominique Savio, avec qui on a de très bons rapports. Et je souhaite déjà le dire, pour lequel je ne pourrais pas compenser si, à un moment donné, Dominique Savio n'existait plus à La Foy. Dominique Savio a deux classes par niveau. Je ne serais incapable...
Vous ne pouvez pas les absorber, quoi.
Je ne peux pas absorber deux classes par niveau, rien qu'au niveau des infrastructures. Donc, Dominique Savio a toute sa légitimité pour être, à l'heure qu'il est, un établissement qui fonctionne, bien. Donc, on essaie de trouver des alternatives. On a reçu quelques inscriptions, mais qui étaient prévues, qui n'étaient pas forcément liées à la problématique de l'internat. Aujourd'hui, l'internat, on essaie de trouver des solutions adaptatives. Je crois que vous avez reçu M. Brial ce matin.
Oui,
qui a parlé de ça, et effectivement avec l'internat provincial et avec la mairie qui cherche aussi le moyen de transporter ses élèves qui seraient de l'internat provincial vers Dominique Savio, j'ai l'impression qu'ils sont en bonne voie, enfin je suis partie prenante de la discussion, mais je suis un peu spectateur de ça. Je pourrais accueillir quelques élèves, je ne pourrais pas les accueillir tous, mais l'idée surtout c'est que si les familles souhaitent envoyer les enfants à Savio, et ben qu'ils puissent le faire dans les meilleures conditions et ils pourraient les recevoir à l'internat provincial. Donc c'est pas décidé, c'est pas définitif encore comme solution, mais c'est en bonne voie. Et moi de mon côté, j'ai reçu quelques élèves. Je dirais plus que les élèves de Dominique Savio qui viennent chez nous sont plus pour des problèmes liés à la cherté de l'enseignement à ce moment-là, puisque c'est vrai que on a aujourd'hui une scolarité moins onéreuse au collège public qu'au collège privé.
Merci beaucoup pour ces précisions. Alors avant de terminer, une dernière question quand même à chacun d'entre vous. On est mardi qui précède la rentrée scolaire. Dans quel état d'esprit vous dites vivement lundi qu'on voit comment tout va se mettre en route ou comment tout fonctionne, ou là, je ne veux pas être prêt d'ici lundi et j'aimerais bien que ce temps de pré-rentrée se prolonge encore un petit peu. Allez, Anne-Sophie Michalak, vous aviez commencé.
Alors moi, j'ai déjà hâte de retrouver l'équipe vendredi. Complet. Et puis, on est tous... l'école va être prête, d'autant plus que l'école Robert Burke est toute belle cette année, parce qu'elle a été repeinte, hein, totalement repeinte. Donc, on va pouvoir accueillir les enfants dans une... On a hâte de voir leur regard quand ils vont découvrir cette nouvelle école.
Voilà, en plus, il y aura de la nouveauté pour eux, donc.
Tout à fait, voilà.
Michel Houillet, vous avez hâte d'être à lundi ou pas tant que ça ?
Hâte d'être à dimanche, puisque la rentrée des internes, c'est à 16h dimanche.
Vrai.
Voilà. Et puis à lundi, parce qu'on est prêt, oui, on est quasiment prêt, quoi. Donc on sera prêt, en tout cas, dimanche, pour recevoir les internes et lundi pour les externes.
Thomas Long.
Bien sûr, hâte d'être déjà vendredi, recevoir les enseignants, de discuter avec eux, de reprendre contact. Et puis lundi, mardi, mercredi, c'est 3 jours d'accueil des enfants. C'est toujours de bons moments pour les élèves et donc pour nous aussi.
Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur ce plateau pour nous parler aussi de la rentrée vue du côté des chefs d'établissement et de leurs attentes. Merci à tous les trois donc d'être venus dans cette émission qui sera évidemment disponible en réécoute sur notre site internet dans quelques instants. Je vous souhaite une bonne après-midi à tous.
Merci à vous.
Le magazine citoyen avec la province Sud, une province citoyenne.
La province Sud, agir pour l'avenir.